au féminin. Le monde au féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VO Afrique, le monde au féminin. Nathalie Barge pour vous servir avec moi dans le studio. Anastasie Mafema, fondatrice du lycée bilingue Claude Mafema à Kinshasa. Psychologue, pédagogue, puéricultrice de formation, chef d'entreprise entre autres. Merci beaucoup Anastasie d'être avec nous. C'est un grand honneur de vous avoir.
Pas de quoi.
Alors vous êtes également responsable de l'ONG Claude Mafema qui encadre des enfants de la rue. Vous recevez notamment des filles mères, vous aidez à la réintégration et réinsertion des ex-enfants soldats. Et on va parler particulièrement des filles de la rue ou filles des rues parce que il me semble, d'après certaines statistiques, quoique l'on en manque cruellement des statistiques justement, en tout cas récentes, les dernières statistiques qu'on peut avoir, ça date en général de 2009, des choses comme ça, mais il semblerait qu'il y ait de plus en plus de filles dans la rue, dans certaines grandes cités africaines. Tout d'abord, je voudrais qu'on parle de votre ONG, si vous le voulez bien. L'ONG Claude Mafema, c'est en hommage à votre époux, qui était, je crois, ministre de l'enseignement supérieur, non?
Il était vice-ministre de l'enseignement supérieur, ministre de l'enseignement supérieur,
okay.
Ministre de l'intérieur. Il est passé par plusieurs
ministères.
Départements.
Mmh. Oui. Mmh. Donc c'est en hommage à votre époux.
C'est un hommage, oui. Parce que lui, l'éducation, c'était
son cheval de bataille.
Voilà.
Alors, Kinshasa, c'est quand même 14 000 enfants qui vivent dans la rue. C'est énorme comme chiffre, c'est abominable ça. C'est Médecins du Monde qui disait que 7 filles sur 10 dans la rue sont violées. Certaines ont 11 ans à peine. Une sur 3 est mère. Et la majorité de ces filles a recours à la prostitution. C'est alarmant.
C'est vraiment alarmant quand on voit ces enfants-là.
Ouais.
Mais il faut chercher aussi la cause. Pourquoi?
Oui, bien sûr.
Et la cause, on connaît. La cause, tout le monde connaît la cause. Pourquoi les enfants quittent la maison, ils vont dans la rue? Ils vont dans la rue, mais il y en a beaucoup.
Les enfants quittent la maison, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Ils ne sont pas retenus?
Non. Enfin, parce que moi, personnellement, et les filles et les garçons.
Oui.
Les
parents ne les retiennent pas?
Non. Parfois, les parents ne savent pas où sont les enfants. Les parents ne savent pas. Ils ont quitté la maison, mais il y a une cause. Enfin, moi, dans ce que j'ai fait, je suis allé chercher la cause. Pourquoi l'enfant quitte la maison? Pourquoi si j'aime, il quitte la maison?
Alors, les réponses. Bon, on en connaît certaines, la misère, etc.
La misère, les parents qui ne gagnent pas, les enfants ne mangent pas. Ou bien alors, les parents, les pères et la mère qui ne s'entendent pas, ils se battent, les enfants voient ça. Eh bien, les enfants sont frustrés. Et ils quittent
la maison. Et peut-être aussi certains qui sont victimes de violences chez eux, non?
Oui, parfois ils ne disent pas, mais oui. Vous savez comment nous vivons en Afrique. Dans une maison, il y a tout le monde dedans. Les cousins, les oncles, tout. Ce qui se passe aussi, quand des choses comme ça arrivent, les enfants ont peur. Les enfants sont menacés. Si vous racontez, je vais vous faire ceci, cela, je vais vous ensorceler et tout. Les enfants ont peur et paix. Ils prennent la peau d'escampette. Ils s'en vont.
Pour leur survie, en fait.
Eh bien oui.
Et puis ils se retrouvent dans la rue.
Ils se retrouvent dans la rue où ils ne sont pas mieux non plus.
Non.
Ils sont dans les marchés, dans ceci. Et il y a tous ces vieux, il y a les sentinelles, les surveillants, tout ça qui font n'importe quoi avec ces enfants. Quand on est parent, quand on est mère, surtout, c'est nous qui portons. Non, on a mal au cœur.
Dans la presse.
Depuis le 24 septembre, les entreprises philippines n'ont plus le droit d'obliger leurs employés à porter des talons hauts. Ceci en vue de faciliter les conditions de travail des femmes qui doivent rester debout pendant de longues heures telles que les vendeuses, réceptionnistes ou hôtesses de l'air. Selon le décret du ministère du Travail, le port obligatoire de talons de plus de 2,5 cm de haut est interdit. C'est une forme de sexisme car les employeurs disent que les femmes qui portent des talons hauts sont plus sexy, plus attrayantes et plus efficaces dans la vente, a dit à l'AFP Alan Tanjousey, porte-parole de l'Union des syndicats. Alors le texte ordonne également aux entreprises d'accorder à leurs employés des périodes de repos et la possibilité de s'asseoir périodiquement. Et celles qui le souhaitent peuvent toutefois continuer de porter des talons hauts, selon M. Tanjousey, expliquant que le décret était consécutif à de nombreuses plaintes des travailleuses. Anastasie Mafema, je sens que vous avez envie de réagir par rapport à ça.
Non, mais ouais. franchement.
Oui, c'est le monde dans lequel on vit. Hein.
C'est pas possible.
C'est certes sexiste, mais il y a beaucoup d'endroits où les hommes sont obligés de porter le costume et la cravate. Et ça aussi, c'est sexiste, en fait, parce que les femmes ne sont pas obligées de porter le costume et la cravate.
Non, n'est-ce pas?
Donc, en fait, c'est un problème, on peut dire, en général.
Ouais. Oui, oui, quand je pense aussi, je me rappelle quand j'étais jeune, il fallait que je porte 12 cm.
Ah, oui.
Mais finalement, on a des problèmes au dos.
Oui. On revient sur notre sujet, Anastasie Mafema. J'aimerais bien que l'on puisse avoir une idée de la violence que ces filles peuvent subir dans la rue. Quelle violence subissent-elles exactement? Il y a la violence sexuelle déjà. Elles sont forcément exposées à ça.
Oui. Oui, il y a la violence sexuelle, oui. Il y a... Vous voyez, ils subissent parce qu'ils doivent vivre, ils doivent survivre. Ils subissent. Il y a une Mercedes qui arrive.
La prostitution.
Qui brandit les billets. Cet enfant-là n'a rien. D'abord, il ne sait pas où se loger. Il doit s'habiller un peu parce qu'il y en a qui sont dans les tombes, dans les cimetières. Chez nous, allez dans les cimetières, vous trouvez ces enfants-là. Hein? Il y en a d'ailleurs qui sont mariés là et qui ont les enfants sur le tombe.
Mais le gouvernement dans tout ça, parce que une petite fille de 11 ans qui est dans la rue pour se prostituer, elle n'est pas invisible quand même.
Non, il n'est pas visible.
Elle n'est pas invisible, je veux dire.
On la voit, on le sait.
On a des statistiques, on a des chiffres.
On passe au cimetière, on passe partout dans les rues. On le voit. Normalement, avec les organismes, on devrait voir moins d'enfants.
C'est quand même quelque chose d'urgent de sortir une fille de 11 ans qui traîne dans la rue et qui est vraiment exposée à toute cette violence, non?
Mais est-ce qu'on est conscient? On a ses enfants et tout, on n'est pas conscient.
Les gens sont habitués à voir des enfants dans la rue
oui,
et puis voilà.
Oui, oui, on ne s'en occupe pas. Et puis quand on les voit dans la rue, ce sont des sorcières et ce sont des sorciers, des choses comme ça.
Et en plus, ils sont victimes de discrimination.
Oui.
De femmes. Recrudescence de filles de la rue en Centrafrique depuis la crise de 2013. La fondation Voix du Cœur, présidée par la députée et ancienne ministre Béatrice Epaye, recueille des dizaines de filles victimes de violences parmi les enfants sans domicile. Je l'ai appelée à Bangui.
Ces filles qui sont aujourd'hui dans notre foyer de Damala sont des filles qui, à l'origine, n'étaient pas des enfants de la rue. Elles ont entre 7 et 18 ans. Donc, c'est des enfants qui ont été dans leur famille et il y a eu la crise. La famille s'est appauvrie puisque les maisons ont été détruites et ils se sont retrouvés souvent dans les sites des déplacés et la famille fragilisée dans un environnement très dur. Les filles ont été atteintes dans leur intimité.
Vous voulez dire qu'elles ont été victimes de violences?
Voilà, elles ont été victimes de violences. Des gens qui portent les armes et aussi d'autres enfants qui sont dans la rue, qui les agressent aussi. Donc les enfants sont en groupe, mélangés avec d'autres enfants. Et après, si la famille voit qu'il y a eu quelque chose, il y a eu des violences à l'égard de la fille, c'est la honte. Et c'est le silence d'abord des familles, mais l'enfant... Les filles sentent que les familles ne veulent plus d'elles. Donc, elles rejoignent les enfants de la rue. Et nos éducateurs qui travaillent en milieu ouvert, qui travaillent dans les rues, sur les sites des déplacés, sur les marchés, recueille ces filles, les amène, on les écoute et on essaie de faire quelque chose pour elles. C'est de les écouter. Et puis nous avons aussi des assistantes sociales qui suivent l'itinéraire de la fille, qui va jusqu'au niveau des parents, qui écoutent les parents. Et notre rôle, c'est de réconcilier aussi les familles. Et nous avons un seul psychologue, parce que bon, pour avoir un psychologue, c'est difficile dans le pays. Et surtout qu'il y a eu beaucoup de traumatismes dans d'autres cas. Mais on a un psychologue qui suit les filles, qui accompagne les assistantes sociales dans les familles, qui voit un peu l'environnement, le contexte de la famille, et puis et toutes ces informations qui nous amènent à travailler sur l'enfant, à essayer de la réhabiliter, lui redonner confiance. Et nous, l'objectif final, c'est que les familles soient renouées.
C'était la présidente de la Fondation Voix du Cœur en Centrafrique, Béatrice Epaille. Vous pouvez suivre l'interview intégrale sur voafrique.com. Anastasie Mafema, vous avez entendu hein, Béatrice Epaille, elle fait la même chose que vous, hein, Béatrice Epaille, qui a été également femme de courage du département d'État américain. Est-ce que vous vous sentez proche des gens qui font la même chose que vous? Est-ce que vous n'avez pas envie de les connaître?
Oui, il faut qu'on... C'est bien quand on se connaît, on se passe des idées. Pour dire, dans ces cas-ci, comment vous avez fait, peut-être pour faire sortir ces enfants. Moi, le but, c'est que les enfants quittent la rue et qu'ils intègrent leur famille.
Voilà, c'est le même but.
Et c'est ce que je suis contente pour ce que j'ai pu ramener en famille et qui sont devenus des hommes aujourd'hui.
Alors, c'est quoi à peu près le pourcentage d'enfants qu'on arrive à ramener à leur famille?
C'est pas beaucoup par rapport à la masse. C'est pas beaucoup. Par exemple, moi, sur une quinzaine, j'ai 5 qui ont réintégré la famille.
C'est bien.
Ils ont réintégré la famille.
Qu'est-ce qu'ils deviennent les autres alors? Ils continuent de grandir au sein de votre association.
On essaye qu'ils puissent apprendre, qu'ils étudient, qu'ils fassent quelque chose. On les remet dans les écoles de métiers, qu'ils apprennent des métiers. Il y en a qui sont devenus des mécaniciens, des chauffeurs.
Et les filles en particulier?
Des filles comme ça, nous les mettons en coupe et couture, qu'ils fassent un métier, qu'ils apprennent un métier pour pouvoir survivre convenablement.
Et est-ce que vous pouvez en réintégrer certaines qui sont assez jeunes à l'école?
Mais moi, je les amène à l'école.
Oui.
Par exemple, une quinzaine là. Ces enfants-là, j'ai des profs qui suivent ces enfants-là, qui les rappellent parce qu'il y en a qui ne connaissent absolument rien. Il faut connaître, recommencer dès le début des méthodes gestuelles pour qu'ils apprennent vite à lire, à écrire. Et là aussi, c'est encore autre chose. C'est que moi, j'ai vécu personnellement. Les apprendre, par exemple, écrire papa. Il y a des enfants qui devenaient, ils faisaient des crises. Ils ne pouvaient pas écrire papa.
Par rapport au nom?
Par rapport à ce qu'ils ont subi en famille. Oui. Mais finalement, avec beaucoup d'amour, en leur disant non, il faut ceci, sans papa, vous ne seriez pas là et tout. On les a fait réapprendre à aimer.
Et donc, vous avez aussi des équipes de psychologues qui travaillent avec vous?
On se bat.
C'est pareil, c'est le même problème que Béatrice Epaille. Comment on explique qu'il y a un manque de ce côté-là? Parce que quand même, des psychologues, il y en a beaucoup qui sont formés.
Peut-être qu'il y en a, mais il faut aller les chercher. Moi, par exemple, je suis à côté d'un institut pédagogique. Alors, quand je vais chercher mes profs aussi, que ce soit ceux du domaine, c'est des pédagogues, des psychologues, comme ça, ils peuvent suivre facilement les enfants, tous les enfants, parce que c'est pas facile, C'est pas facile par le temps qui court.
Il faut beaucoup de confiance.
Il faut des gens qui ont confiance, ceux qui savent aimer les enfants. Parce que c'est pas facile.
Ouais, c'est une vocation.
Oui. Parce qu'il faut, ces enfants-là, il faut les canaliser.
Et puis, certains sont peut-être aussi très difficiles et ça fait peut-être un petit peu peur. C'est vraiment une spécialisation.
Oui. Et au moindre petit rien, parce qu'eux, ils doivent... C'est protégé.
Oui.
Pour se protéger, c'est comme des petits chiens là. Ils grognent, ils tapent. Il faut savoir se défendre. On leur apprend de ne pas agir comme ça.
L'agressivité à canaliser.
Quand ils trouvent de l'amour, vraiment, ces enfants la changent.
Ça, de toute façon, ça marche tout le temps, l'amour, n'est-ce pas?
Avec l'amour, ça change. Ouais. Ça change. J'ai des photos de Patrick qui est devenu papa maintenant, un chégué. J'ai vu les parents, j'ai vu la mère, j'ai vu les pères, j'ai parlé avec eux et tout ça. Vous savez, maintenant, il est devenu père, il s'est marié et l'enfant se trouve à l'école.
Bravo.
si jeunesse pouvait.
Les premières victimes de la violence au Kasaï, en RDC, sont les enfants. L'ONU a accusé les milices Kamuina Nsapu d'enrôler des enfants et d'avoir commis des atrocités, tout en dénonçant également l'usage disproportionné de la force par l'armée congolaise. J'ai joint à Kananga le coordonnateur du réseau Jeunes dans le monde pour la paix, Edel Martin Kabuta Kapwa, qui dénonce la violence exercée contre les enfants dans cette région congolaise.
Nous avons eu à former des jeunes, qu'on appelle les jeunes médiateurs, bâtisseurs de paix et promoteurs des droits humains. Nous aimerions que les jeunes ne puissent pas céder à l'exploitation, donc à la manipulation politicienne, que les jeunes et les enfants ne soient pas utilisés, ne soient pas manipulés pour servir des intérêts cachés des autres. Et nous avons invité que ce soit des hommes de Dieu dans des églises partout, de sorte qu'on puisse comprendre que la manipulation n'est pas bonne et qu'on ne doit pas céder. C'est pour que plus jamais que ça, personne qui ont leur agenda caché ne puisse venir ouvertement et qu'ils ne puissent pas utiliser encore les enfants et les jeunes. Mais ce qui est vrai, que les enfants, les jeunes ont été à la fois victimes et co-auteurs de ces violences que nous sommes en train de condamner, parce qu'ils ont été utilisés d'abord parfois aussi comme boucliers dans ces affrontements, et ils ont été les plus victimes. Donc lorsqu'il y a eu des réactions de part et d'autre, ce sont ces enfants qui sont tombés victimes, qui ont été tués, qui ont été massacrés.
Edel Martin Kabuta Kapwa, coordonnateur du réseau Jeunes dans le monde pour la paix, était joint à Kananga en RDC.
Mais oui, et si la jeunesse pouvait?
Anastasie Mafema, vous avez entendu, qu'est-ce que ça vous fait, la crise au Kasaï aussi?
C'est dramatique, c'est dramatique. Mais il faut connaître la vérité.
Oui.
Je ne sais pas moi, la vérité, si c'est ce qu'on dit. On parle de la jeunesse de Kamuina Nsapu. Je ne sais pas.
Ah, vous ne...
Je ne fais pas la politique, je n'aime pas, parce qu'il y a beaucoup de mensonges. Il y a beaucoup de mensonges.
Il y a des enquêtes en ce moment, effectivement, et il faut voir ce qu'il en est.
C'est la piétine, en fait, je ne sais pas.
Ce que la plupart des observateurs, et principalement observateurs qui observent les droits humains, s'ils sont violés ou non, ils ont l'air de dire que de toute façon, de la violence, il y en a des deux côtés. C'est ce qu'on retrouve un petit peu partout. Ouais. La violence n'a pas de frontières, n'a pas de famille, n'a pas de limite.
Partout.
On revient sur le problème des filles mères. Les filles mères, vous en avez connu donc plusieurs des filles mères. Comment vous les prenez en charge, ces jeunes filles, ces filles qui sont déjà mamans?
Il faut les encadrer.
Mm-hmm.
Il faut les encadrer d'abord. Parce que souvent, ce sont des gens qui sont bannis, qu'on regarde pour dire, mais celle-là, hein, on voit tout de suite, elle n'a pas été sérieuse et tout, non. Il faut savoir d'abord pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé.
Mais ce sont des enfants, elles ne sont pas responsables.
Ce sont des enfants, oui. Ce sont
des actes des autres.
Oui, ce sont les enfants avec tous les tabous qu'il y a, ils n'osent pas dire. Oui. Parce que, en fait, parce que nous, par exemple, avec les enfants, on ne sait pas, on ne partage pas. On ne leur dit pas, voilà comment il faut marcher dans la vie, voilà quand vous avez tellement période. Hein? Nous, c'est vrai, chez nous, on ne communique pas avec les enfants.
Mmh.
C'est ce qui est dommage, vous trouvez la fille qui
a été... Donc, il n'y a pas une petite évolution quand même au sein des familles, plus de communication
maintenant,
entre la mère et la fille, hein?
Maintenant, les gens se rendent compte qu'il faut encadrer les enfants.
Tout dépend du milieu.
Oui, ça dépend du milieu, oui. Mmh. Mais il y a une amélioration.
Mais alors, dans le cas d'une fille mère, il faut prendre donc la fille en charge et le bébé aussi.
Dans mon cas, je vais trouver les parents. Hein? Je vais trouver les parents qu'ils prennent leurs responsabilités. Et alors, on essaie de donner l'éducation. Parce que quand elle arrive comme ça, elle n'étudie plus. Moi, j'essaie de les encadrer, qu'ils étudient. Qu'ils fassent de couper, couture, des choses comme ça. Hein? Pour qu'ils puissent évoluer.
Qu'ils
ne restent pas clotés. La maman prend les enfants.
Parenthèse. Au Burundi, le chômage des jeunes est préoccupant, surtout chez les étudiants qui ont terminé le cycle universitaire. Et très peu de diplômés trouvent du travail dans la fonction publique, nous dit notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Fini l'époque où chaque mémorant pouvait choisir être nommé au promu responsable d'une société étatique ou para-étatique. Ce jeune de 30 ans a terminé il y a 2 ans la gestion et l'administration des affaires dans une université privée de Bujumbura. Il fait de petits jobs dans certains restaurants.
Nous travaillons comme serveur ou comme gestionnaire. Nous vivons, vous connaissez la vie socio-économique. La vie est difficile, totalement difficile. Nous demandons au gouvernement d'établir le plan stratégique de lutte contre la pauvreté dans notre pays.
Cet autre chimiste de formation de 25 ans cherche du travail depuis 4 ans. Les recrutements sont gelés depuis plusieurs années à la fonction publique. Ce chimiste se débrouille en donnant des cours au secondaire.
On cherche dans des ministères où on affiche les recrutements et on dépose les dossiers, espérant avoir du travail, mais le résultat reste négatif.
Cet ancien universitaire de 30 ans étudiait le département d'anglais à la faculté des lettres et sciences humaines. Il passe ses journées à la maison.
Aujourd'hui, je sers mes sous. Il y a des offres dans tel ministère ou dans telle société, mais quand il arrive pour demander de telles offres, il dit qu'il n'y a rien. Nous demandons à notre gouvernement de vraiment chercher des emplois concernant les étudiants qui ont terminé les écoles pour trouver un emploi pour travailler.
Avec le gel des recrutements à la fonction publique, selon un expert en entrepreneuriat, les gouvernements burundais devraient créer des structures d'encadrement de jeunes pour que ces derniers puissent avoir leurs propres emplois. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Anastasie Mafema, c'est le mot de la fin. Quel espoir pour les enfants de la RDC?
Et pour les enfants de la RDC, nous avons le département famille, nous avons le département des affaires sociales. S'ils pouvaient faire leur travail, s'ils pouvaient sortir au lieu de rester dans les bureaux climatisés, s'ils pouvaient vraiment faire leur travail, faire les tours des cimetières, des rues, les soirs, la journée, on pourra endiguer ces fléaux-là, des enfants de la rue, des filles qui sont brimées, les filles qui sont violées. On pourrait les faire. On a beaucoup de gens là dans les bureaux, mais il faut qu'on sorte. Et nous, les mamans, nous devrons encadrer nos enfants, nos petits-enfants, les neveux, les nièces, les encadrer et leur donner vraiment une éducation aux valeurs.
Merci beaucoup, Anastasie Mafema. À très bientôt. Au revoir.
Merci.
Arrête.